C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, au temps du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au XXIe siècle, quoi? C'est pas pour dire, mais... toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
À l'autre bout du monde, sur l'île d'Unguja, royaume de Zanzibar, il y avait un mendiant. Cet homme avait tout perdu, d'un coup, comme ça, sans trop savoir pourquoi. Il avait perdu sa femme, sa maison, ses amis, d'un coup, comme ça. Un matin, il a roulé sa vieille natte trouée, c'est tout ce qui lui restait. Il est sorti du village, il a traversé la route et il est allé s'asseoir près du dépotoir. Il dort là désormais. C'est là qu'il cherche sa nourriture. Il fouille les ordures, il trouve des grains de riz, des épluchures pourries, des lambeaux de viande sur des os que même les chiens ne veulent plus ronger. Et lui, il mange ça. Il mange cette nourriture dont les chiens ne veulent pas. Un jour, dans ce tas d'ordures, il trouve une pièce d'argent. Au même moment, sur la route, passe un marchand qui porte sur la tête une étrange cage en branchage, large et arrondie. Une cage en forme de dôme. Le mendiant l'appelle. « Hé, qu'est-ce que tu transportes dans cette cage ? Des antilopes ? Ah, tu me fais voir ?» Sur cette route, il y avait aussi trois hommes, bien habillés, visiblement bien nourris. C'étaient les riches propriétaires des plantations de girofle, le clou de girofle, l'or de Zanzibar. Ils s'étaient arrêtés de parler pour entendre la conversation entre le marchand et le mendiant. Quand le marchand passe près d'eux, le plus gros des trois l'arrête. « Oh, toi ! Tu vas faire une bonne affaire, je le sens. Le prince des ordures s'intéresse à tes antilopes. C'est bien. Il les paiera avec quoi? Il ne gagne pas un sou. Depuis que sa femme est morte, il ne fait rien de la journée. » Le marchand pose sa cage, il salue et il dit au moi, vous savez, je parle avec tout le monde. C'est la coutume chez les marchands. Je parle avec les petits, je parle avec les puissants, je parle avec les femmes, je parle avec les hommes, je parle avec les riches comme vous et je parle avec les pauvres comme lui. Si je fais affaire, je suis content. Et si je ne fais pas affaire, c'est comme ça. C'est la coutume dans le commerce, vous savez bien. Pendant qu'il parlait, le mendiant s'était approché. Il regardait les antilopes. Elles sont belles. C'est combien une antilope? Une pièce d'argent? Le mendiant tend sa pièce. Aussitôt, le gros le bouscule. Tu l'as volée où, cette pièce? Il répond qu'il l'a trouvée dans le tas d'ordures. Les trois se moquent de ce fou, de se crève la faim. Il trouve une pièce d'argent, il la dépense pour une antilope. Le mendiant tend à nouveau sa pièce. « Tiens, prends et donne-moi voir mon antilope. » Le marchand lui donne son antilope, une corde, et le mendiant s'en va avec son animal en laisse. Il retourne au dépotoir. Il fouille les ordures et il partage ce qu'il trouve avec son antilope. Et quand la nuit vient, il déroule sa vieille natte et il enroule la laisse autour de son poignet. Alors l'antilope fléchit doucement les pattes et se couche à ses côtés.
Salut, c'est Charles Cécile. Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue à Zanzibar. Et voilà une émission en temps de confinement, une émission en visio. Mais la distance n'empêche pas les deux conteuses, collègues et amies, Paul Latorre et Angel Goluchau, de deviser tranquillement.
Paul Latorre, bonjour.
Bonjour Angel Goluchau.
Ça va bien ?
Très bien.
Alors, c'est une interview un peu particulière parce qu'on est, comme on dit maintenant, en distanciel. Toi, dans le sud et moi à Nantes. Alors, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a déjà plusieurs émissions qui ont été consacrées à Paul Latorre. Mmh. Il y a autant d'émissions consacrées à Paul Latorre que d'émissions consacrées à Bruno de la Salle, imagine.
Oh là là.
J'avais envie de discuter avec toi autour de ton dernier travail et de ton dernier spectacle autour de ce récit qui s'appelle « Le mendiant et l'antilope ». C'est un travail de longue haleine, ça date d'il y a un moment. Les premiers pas de ce récit, c'était quand ? Ça vient d'où ?
Les premiers pas, ça vient du Clio et de Bruno de la Salle, justement.
Encore lui ? Et alors, qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là ?
En fait, ça a commencé dans sa voiture, où on parlait des contes merveilleux. Et je disais que s'il y a bien un conte merveilleux que je n'avais pas envie de raconter, c'était le chat botté.
Erreur.
Moi, le chat botté, c'était Bernard Tapie.
Comment ça que c'était Bernard Tapie ? Que le chat botté, c'était Bernard Tapie ?
Ah oui, parce qu'il arnaque tout le monde, là, les poulettes, il leur fait croire qu'il va leur faire dorer la queue au château, etc. Puis tout ça, c'est pour les amener se faire manger. Et bon, là, c'est au service de son maître, mais enfin, il n'hésite pas à faire dévorer des animaux. Voilà, il a un scrupule, quoi.
C'est marrant parce que je me souviens de la conteuse Claire Garrigue, que tu connais, et il me semble l'avoir entendu dire à propos des récits de Simbad le marin que c'était pareil, c'était un espèce de Bernard Tapie. Elle n'avait pas du tout envie de raconter ça au début, si je me souviens bien. Et elle avait fait l'erreur de le dire devant Bruno de la Salle.
C'est drôle.
Avec le même argument, non mais Simbad, c'est un sale type quand même. On est vraiment dans le capitaliste le plus... Et donc elle avait fait la même chose avec le même résultat. Alors oui, donc, qu'est-ce qui s'est passé ?
Voilà, donc je lui ai dit ça, que je n'avais pas envie de raconter cette histoire. Et puis à cette époque-là, au Clio, pour le festival Epos, Bruno avait eu la bonne idée de proposer à plusieurs élèves, on va dire, de raconter un conte dans différentes versions. Donc nous, on était trois. Et il me dit, voilà, il distribue les contes et il dit, Paul, le chat botté. Je lui dis, non. Je t'ai dit que je ne voulais pas raconter cette histoire. Oui, mais il y a une version, tu devrais lire. Et donc, il me donne la référence du bouquin, Les Nuits de Zanzibar, que je n'avais pas. Et je rentre chez moi et j'avais un contrat avec une école qui voulait une sorte de tour du monde des contes, qui est des contes un peu de chaque continent. Et moi, je n'avais pas beaucoup de contes africains, donc j'avais dans les histoires de Philippe Héré-Soupeau, j'avais mis des petits marque-pages à tous les contes africains, voilà, pour les lire. Et je rentre chez moi, donc c'était une version de poche, j'avais trois petits, comme ça, trois petits livres. J'en prends un au hasard et j'ouvre au hasard à l'un de ces petits marque-pages que j'avais mis et je tombe sur cette histoire. Alors, bon, je me suis dit, si tout le monde s'y met.
C'est donc une version du Chaboté, mais de Zanzibar, une version en swahili.
Voilà. Alors là, elle était très, très, elle était très, très résumée quoi, dans le bouquin de Philippe Iressoukou. Mais je l'ai cherchée donc, dans le bouquin que Bruno m'avait indiqué. Et là, c'est une très longue histoire. Mais en fait, je n'en raconte que la moitié parce que tout le début, c'est l'histoire de la femme. Et je ne la raconte pas parce que c'est très difficile. Il y a plein de références culturelles. Si on ne les comprend, enfin, si on n'est pas au courant, c'est compliqué de comprendre les choses. Et bon, je ne peux pas faire une conférence avant pour expliquer pourquoi le riz brûlé, c'est dessus et pas dessous, pourquoi, quel est le rapport avec les esclaves. Enfin, il y a plein de références culturelles compliquées à, si on ne les connaît pas, on passe à côté du récit. Et donc, je ne raconte pas cette première partie. Donc, toute cette première partie, c'est la femme, l'histoire de la femme, et puis elle meurt, et puis commence l'histoire de l'homme.
Dis-moi donc, à ce moment-là, vous étiez trois, et donc il y avait quelle
Il y
version?
avait une version qui était avec un renard doré, je crois, et une autre version que j'ai oubliée.
Dans tous les cas, il s'agit. Qu'est-ce qui fait le point commun entre ces versions, tu dirais?
Ben, c'est qu'un animal, disons, un animal se met au service d'un humain et veut transformer la vie de cet homme qui est mal en point, on va dire, et va tout faire pour lui. Et parfois, il sera récompensé de ses bons services et parfois il ne le sera pas. Mais dans tous les cas, il réussit à transformer la
Dans
situation.
la version que tout le monde connaît, en France en tout cas, c'est l'histoire d'un garçon. À la mort du père, l'héritage est partagé et lui, il hérite d'un chat qui est donc. Voilà, c'est pas comme un bœuf qui pourrait travailler, c'est pas non plus comme un coq qu'on pourrait manger, et donc il trouve qu'il est quand même moins bien loti. Dans tous les cas, enfin, j'ai l'impression, tu me diras ce que tu en sais, j'ai l'impression que le héros, celui dont la vie va être transformée, ne demande rien explicitement, disons, au début.
Oui, il demande pas à sortir de sa situation, mais il est bien content quand ça se présente.
D'accord, ouais.
C'est-à-dire que lui, il est quand même, il est soit accablé, soit déprimé, enfin, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Mais tu sais, j'ai une façon assez bizarre de travailler les histoires. C'est-à-dire que toutes ces versions, je les ai lues. Enfin, j'ai lu toutes les versions que j'ai pu trouver, quoi, du Chaboté. Alors, je lis, voilà. Et une fois que j'ai fait ce travail de lecture, que j'ai choisi la version, que j'ai pris une direction, j'oublie ce que j'ai lu. Et j'oublie presque totalement. C'est très étrange.
Quand on écoute ton récit, on s'aperçoit que ça change aussi beaucoup entre ce chat et cette antilope. C'est pas du tout le même type, le même caractère d'animal. Elle a quelque chose de très gracieux, de très délicat que n'a pas le chat. N'a pas les grandes bottes du chat de Perrault.
Mais oui, mais elle est pas du tout, elle est, non, elle est pas du tout roublarde. Elle est complètement dévouée à cet homme. Elle trouve que c'est pas possible d'être comme ça, de vivre comme ça. Elle veut le sortir de là. Et quand elle le lui propose, il est tout à fait d'accord, sauf qu'il sait, lui, il n'a aucune idée de ce qu'il faut faire. Et elle, contrairement au chat, elle va arnaquer personne, elle va délivrer au contraire une ville de son tyran. Donc, oui, c'est un être gracieux, léger, dévoué, sans arrière-pensée, sans. Elle donne, quoi, elle est là pour. Oui, elle est là au service de la vie, quoi, de voilà.
Là, tu viens d'évoquer un épisode qui n'existe pas dans les autres versions, en tout cas dans celles que je connais. Cette ville maudite, cette ville prisonnière d'une malédiction et soumise à une bête à sept têtes. C'est un épisode incroyable, celui-là.
Pour moi, là, c'est presque, c'est fantastique, quoi. Tu vois, il y a quelque chose de fantastique c'est complètement étrange. Cette ville est complètement étrange, quoi, tu vois, avec des maisons qui penchent comme des arbres. Parce qu'il souffle, il a un souffle, ce monstre. Il courbe tout, les maisons, les arbres, les gens. Ouais, c'est assez. Ouais, pour moi, c'est un passage proche du fantastique. Et dans le travail qu'on a fait avec Jean-Pierre, je trouve que la manière dont il accompagne avec ces bols tibétains qu'il file avec un archer, je trouve que ça amplifie ce caractère fantastique. Et moi, en tout cas, ça m'est très précieux parce que dès qu'il file ses bols, je la vois 10 fois mieux, la fille.
Étrange ville, étrange maison. Tout est si étrange ici. Les maisons penchent. Elle penche vers le sol. Elle penche comme penchent des arbres soumis longtemps au même vent violent. Étrange maison penchée, abandonnée, livrée aux caprices des vents. Pourtant pas un souffle. Pas un bruit non plus. Personne dans les rues. L'antilope traverse cette ville sans briser son étrange silence. Ses sabots effleurent le sol. Elle avance ainsi. Elle avance. Et soudain, elle s'arrête. Devant elle, le plus beau jardin du monde. Et au centre du jardin, le plus beau palais du monde. Les murs sont de marbre blanc, ornés de pierres fines, jaspe, agate, corail, turquoise. Voilà enfin un palais pour son maître. Elle frappe à la porte. Personne ne répond. Elle frappe à nouveau. Une très vieille femme ouvre. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu cherches? Si c'est la mort que tu cherches, tu as bien fait de frapper à cette porte. Mais si tu tiens à la vie, va-t'en. L'antilope ne bouge pas. Écoute-moi bien. Beaucoup de gens sont morts ici, dans cette ville, dans ce palais. Et pourtant, ils avaient des épées et des boucliers. Grand-mère, c'est de l'histoire ancienne. Écoute-moi, antilope, écoute-moi. Ils n'ont pas réussi, eux qui avaient deux jambes. Alors toi qui en as quatre. Mais l'antilope est décidée. Rien ne pourrait l'arrêter. Elle veut savoir qui possède ce palais merveilleux. La vieille répond que ce palais merveilleux appartient à un prince féroce. Un serpent énorme. Un serpent à sept têtes. Chacune de ces têtes hurle comme le vent. Sept vents fétides qui soulèvent des nuages de poussière. La ville suffoque, tremble, disparaît dans ce brouillard. La vieille dit encore: tout ici appartient à mon maître. Les trésors cachés dans les souterrains, la ville, les gens qui sont tous ses esclaves. Et moi je suis sa servante, sa cuisinière, ouais. Toute la journée, je dois remplir de viande crue ces sept chaudrons et je dois les disposer en cercle pour que ces sept têtes puissent manger en même temps. Je suis moins vieille que j'en ai l'air, tu sais. Mais ce travail m'épuise et me dégoûte.
Le mendiant et l'antilope, un récit de Paul Latore, musique de Jean-Pierre Julien.
Je me suis demandé quel accompagnement musical j'imaginais avec ça, et j'ai pensé à Jean-Pierre, qui est un percussionniste, l'âme scène improvisée, on va dire. Voilà. C'est quelqu'un qui écrit aussi de la musique, hein, qui écrit des pièces. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est très... sa formation et son plaisir, enfin, en dehors de... Il y a l'écriture d'une part, et puis il y a l'improvisation d'autre part. Et moi, je le connaissais surtout par l'improvisation. Et c'est quelqu'un qui a un jeu qui peut être sec, qui peut être... c'était vraiment une percussion vive. Et je trouvais que ça serait nécessaire pour ce récit que la musique, soit avec, enfin voilà, on est dans la même couleur, on est ensemble dans la même couleur, et puis des fois que ça soit des tensions et que la musique raconte autre chose. Et je supposais, j'avais l'intuition, que Jean-Pierre saurait faire ça, être avec et être contre aussi, dans un jeu de tensions. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que je lui ai demandé à lui, à cause de son jeu qui peut être extrêmement délicat, mais aussi nerveux.
Et je passe un peu d'une chose à l'autre, mais en t'écoutant parler de cette chose-là, d'être avec et d'être contre, j'ai l'impression que cette antilope, en réalité, elle est toujours avec, sans condition. Il y a quelque chose comme de la dévotion, non ? J'ai l'impression que ça parle de ça aussi, d'être avec, sans condition, sans limite, comme un dévouement infini, une dévotion.
Oui, elle est sans limite. Tu sais bien. les histoires, au fur et à mesure du temps, quand on les raconte, on n'en entend pas la même chose. Tu vois, moi, au début, je trouvais qu'elle était... Enfin, d'ailleurs, c'est ce que lui dit la vieille quand, dans la dernière partie du récit. Mais je trouvais qu'elle en faisait trop, qu'elle ne savait pas se protéger et que du coup, bien sûr que ça tournait mal. Parce que, voilà, il y a des limites qu'il faut poser. Elle ne les posait pas et forcément, ça allait tourner mal. Tu vois? C'était trop ce qu'elle faisait. C'était, elle allait au-delà de... du possible, en tout cas du possible pour cet humain. Il est pas capable
Oui,
de recevoir,
ça
quoi.
parle aussi de ça, d'ingratitude, on
Ouais,
pourrait
ça
dire.
parle de l'ingratitude, mais ça parle aussi de l'incapacité de recevoir de l'amour, de
Ouais, c'est vrai.
recevoir autant d'amour. C'est trop pour lui, il ne peut pas supporter. Et tu vois, ça a été une, ça a été une, un chemin. Tu vois? Ensuite, je me suis dit aussi que cette antilope, en fait, elle n'existait pas vraiment, qu'elle était l'âme de cet homme, qu'elle était. Donc, y a, bon, voilà, y a des pistes comme ça, enfin, il y a des choses qui résonnent. Et puis, par rapport à notre histoire, tu vois, au début, quand j'ai commencé à raconter, Bruno m'avait posé cette question, mais toi, est-ce que tu sais ce que c'est l'ingratitude? Et j'avais dit, ben, écoute, l'ingratitude, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de l'être ingrate. J'ai des exemples dans ma vie où je l'ai été, où je le suis. Mais par contre, je n'ai pas d'exemple où d'autres l'étaient avec moi. Je ne connais pas ça, je n'ai jamais pensé de quelqu'un qu'il avait été ingrat. Je ne connais pas ce sentiment et je n'aimerais pas le connaître en fait. Enfin, j'aimerais pas ressentir ça. Tu vois, de me dire, ah, cette personne a été ingrate. Enfin, ça me dérangeait beaucoup. Voilà. Et je disais, puis je ne connais pas ça. Et blême! La vie qui est coquine. m'a mise dans la situation où vraiment j'ai su ce que c'était de recevoir de la gratitude. Ouais.
Alors, il y a cette question que les gens nous posent souvent, les enfants, un peu moins les adultes, parce qu'ils n'osent pas ou peut-être qu'ils pensent qu'ils ont résolu la question. La question, c'est est-ce que c'est vrai cette histoire?
Je trouve que les récits, enfin, comment dire, dans un premier temps, si ça nous parle et tout ça, c'est parce que ça dit quelque chose qu'on connaît d'une certaine façon, ça fait écho à quelque chose qu'on connaît, mais qu'on a éprouvé, enfin, ça, c'est une émotion. Mais parfois, enfin, comme là, par exemple, c'est pas que je reconnais quelque chose, c'est que j'apprends quelque chose. Ça m'amène à découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Je trouve que c'est ça aussi qui se passe avec les récits, surtout les longs récits qu'on côtoie pendant longtemps. On fait en quelque sorte, on chemine avec eux, on fait notre vie avec eux. Ils nous éclairent et on les éclaire. Enfin, c'est comme un dialogue.
Parce que quelquefois, on pense que un conte merveilleux, surtout, c'est tout à fait autre chose à côté de la vie, que ça n'a rien à voir. Voilà, il y a des animaux qui parlent, il y a des bêtes à sept têtes, des princes, des rois qui n'existent plus chez nous depuis assez
Ben
longtemps.
pour moi, c'est une façon délicate. Pour moi, les contes merveilleux sont des contes, sont des récits extrêmement délicats. C'est-à-dire qu'ils n'imposent rien, qu'ils ont... Il y a plusieurs manières de les entendre, et même la personne qui raconte ça, elle n'en sait pas beaucoup. Elle n'en sait qu'une partie, surtout au début. Et puis petit à petit, ben, il y a d'autres choses qui... Mais de toute façon, ça reste un mystère. Ça reste un mystère, ça reste une question. C'est pas, voilà, c'est pas, c'est ni une leçon de morale, ni un discours psychologique ou sociologique, ou je ne sais quoi. Y a une part qui échappe, mais il y a quelque chose de profondément vrai. Et d'ailleurs, Moi, c'est ça qui m'empêchait de. Enfin, m'empêcher. Je ne vais pas dire m'empêcher, mais c'est ça qui m'arrêtait au début, quand j'étais au début, quand j'ai commencé à raconter. Ces contes merveilleux, ben voilà, je trouvais c'était étrange, comment encore des choses pareilles, enfin, je ne les croyais pas, etc. Enfin, c'était très loin de moi. Et puis, je me suis rendu compte à un moment donné que c'était une façon délicate de nous mettre en résonance, enfin, avec des choses, des ressentis très profonds, difficiles à exprimer. Ouais, ces questions auxquelles on ne sait pas répondre, ces choses qui nous perturbent dans la vie, etc. Et que ça posait toutes ces questions-là fondamentales de manière très délicate. Si on n'avait pas envie de les entendre, on ne les entendait pas. Parce que c'est loin, c'est des animaux qui parlent, c'est complètement incrédible. Voilà. Alors, si on veut rester sur ce niveau-là, on peut, c'est possible.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont témoigné de ce que ça leur a fait, cette histoire, de ce que ça leur a apporté?
Il y a des gens qui ont été très, très émus, très touchés, qui ont pleuré ou ont envie de pleurer. Il y a des gens qui m'ont dit que ça faisait écho à des choses qu'ils avaient vécues, qu'ils avaient traversées. Il y a un petit garçon qui m'a dit, eh bien, la prochaine fois, puisque ça c'est un cycle, ça boucle, eh bien, la prochaine fois, il fera mieux.
C'est joli, oui. Il y a quelque chose de délicat et il y a aussi quelque chose de vraiment féroce, je trouve, dans cette histoire. La bête est féroce, les combats. J'ai retrouvé Paul Lator sur le bateau pirate de Peter Pan dans les combats. Et puis, j'ai l'impression, je n'y avais pas pensé avant de t'écouter là, mais oui, puisque tu parlais de la vieille dans la ville tout à l'heure, dans la ville maudite, elle aussi, en fait, est découragée. Et ce royaume en entier est totalement soumis et dévasté par le découragement. Ce qui la courbe, entre autres, c'est ça, c'est son découragement et le fait de dire c'est comme ça et on n'y peut rien.
C'est ça. Oui, et tu vois, là, par exemple, tu vois, c'est toujours comme ça lié, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ça, c'est comme ça, on n'y peut rien, on est soumis à cette bête, on ne peut rien faire. Va-t'en, tu risques ta vie et ça ne vaut pas le coup, quoi, tu vois. Et moi, je trouve que ça, par exemple, aussi, enfin, ça fait partie des choses qui, tu vois, ça fait écho à d'autres paroles que j'ai entendues il y a 2 jours, tu vois, j'ai parlé avec le technicien d'Enedis qui venait changer mon disjoncteur, et on a eu toute une discussion, et il témoignait de ça, de son découragement, de son fatalisme, mais on ne peut rien, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça, etc. Il a dit, voilà, moi, je suis malheureux dans mon travail, tu vois, mais il m'a dit ce mot-là, je suis malheureux dans mon travail. Mais il ne voit aucune solution et il n'a d'énergie que pour tenir voilà, jusqu'à la retraite, enfin, parce qu'il faut qu'il. Tu vois, mais il n'a pas d'énergie de combat et il n'y croit pas une seconde. Et je trouve que ça aussi, tu vois, ça fait partie des choses qui me parle, ça, comment on peut vivifier, enfin, tu vois, quelque chose là qui s'éteint, là, ce découragement, cette idée qu'on ne peut rien changer, qu'ils sont trop forts en face, qu'ils sont trop puissants. Voilà, ça fait aussi partie des choses dans la vie qui m'occupent. Et je trouve que dans cette histoire, on retrouve ça, un accablement, un découragement. Et cette petite antilope, elle vient là, tac, 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 vient remuer tout ça, elle vient.
Avec ce paradoxe de la délicatesse, comme tu dis, tac tac tac, avec ses petits sabots. Et puis bon, quand elle coupe les têtes, elle n'y va pas de main morte.
Ah ben, absolument. Mais c'est ça que je trouve merveilleux dans ces histoires. C'est que, tu vois, elle a comme ça, elle est délicate, elle est dévouée, etc. Mais à un moment donné, elle dit à la vieille, bon, maintenant dis-moi, comment faire pour le tuer? Hein?
Ouais.
Hein? Ça n'empêche, tu vois, et ça va dans un même élan vital en fait. Et c'est pas une destructrice, mais là, ça suffit, quoi. Là, il faut trancher. Et je trouve ça super beau, tu vois. Et il y a tellement de questions dans ces récits. Qu'est-ce que c'est la violence, tu vois? Et puis c'est tout des questions, c'est des questions, c'est ouvert. Et chacun, suivant où il est, comment il fait, lui, dans la vie, face au découragement, face au combat, face. Eh bien, chacun va l'investir. Et moi-même, de manière différente, suivant les moments de ma vie, j'ai bien vu, depuis que je côtoie cette histoire, que j'en ai une perception complètement différente. Qui ne, d'ailleurs, et ça ne se contredit pas, d'ailleurs, c'est. Ça se côtoie. Il y a, en fait, ce que je trouve magnifique, moi, dans les récits, c'est qu'ils ne donnent pas de solution. Voilà. Il y a pas de solution à chercher, de solution. Voilà. Je suis en train de suivre une formation, on va dire, par rapport à la méditation. Fabrice Midal dit à un moment donné que la méditation, c'est être au cœur du mystère qu'est la vie. Et voilà, c'est se mettre à cet endroit-là, le mystère de la vie. Et je trouve que le conte, c'est exactement ce qu'il fait. C'est pas trouver des solutions définitives, etc., mais c'est se placer au cœur du mystère de
Après des jours et des jours de marche, ils arrivent au pays du sultan d'Arai. Ils entrent dans le jardin. Les oiseaux quittent les branches des arbres et se posent sur les épaules des musiciens. Ils mêlent leur chant au chant des humains. Les bonnes choses ont une fin. Un beau matin, le sultan Nassim, suivi de sa cour, suivi de ses bêtes, retourna dans son palais. Tout était bien. Alors l'antilope s'endormit. Et ce fut la dernière fois qu'elle vit le sultan d'Arai.
C'est pas pour dire, avec Paul Latore, interviewé par Angel Goduchaud. Aujourd'hui, il est question de merveille, de délicatesse, de détermination.
Est-ce qu'il y a, et je suppose que ça change au fur et à mesure que tu fréquentes cette histoire, mais est-ce qu'il y a une image, un motif, quelque chose qui a fait que tu es tombée amoureuse de cette histoire? C'est quoi?
Enfin, je crois que cette antilope m'a complètement fascinée. Je pense que c'est. Je pense que quand j'ai lu cette histoire, si je me souviens bien, c'est elle, sa grâce, sa légèreté, sa détermination, cet amour. Sans borne, cette naïveté, on pourrait dire. Il y a quelque chose de l'enfance dans cette Tu vois, un petit, il est totalement là, il est totalement dans ce qu'il fait, il aime totalement quand il aime. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de l'enfance.
C'est pas pour dire, avec Paul Latore, interviewé par Angèle Goduchon.
Et puis, après le spectacle, il y a eu cette drôle d'aventure qui est l'aventure de l'enregistrement, de l'édition d'un disque. Tu peux juste dire une parenthèse, donc Pascal Dubois, les éditions Oui Dire, tu peux en dire quelque chose pour les gens qui ne connaissent pas encore les excellentes éditions Oui Dire.
Voilà, donc Pascal Dubois est le directeur des éditions Oui Dire. C'est lui qui a choisi les récits qu'il va enregistrer et qui les enregistre. Ouais. Mais il ne fait pas que les enregistrer, il fait aussi des propositions. Il fait aussi des retours, il fait aussi des remarques très utiles et... Voilà, et pas seulement pour l'enregistrement, où il pose aussi des questions par rapport au récit, etc. Et donc, moi, ce qu'il m'a dit, ce qu'on a pu échanger, ça m'a été utile, c'était des bonnes questions à poser. Et puis, il a proposé que deux musiciens, enfin, il a proposé qu'on n'enregistre pas juste Jean-Pierre et moi, mais qu'il y ait d'autres musiciens pour le disque qui s'ajoutent. Et Jean-Pierre a proposé des musiciens qu'il connaissait, avec lesquels il travaillait et qui pensait pouvoir accompagner ce récit. Et donc, il a proposé Tom Garey, qui joue du vibraphone, entre autres, enfin, principalement du vibraphone, et Daniel Malavergne, qui joue du tuba, et aussi tout un tas, ils ont tout un tas d'instruments, des cochons en plastique, des conques, des tuyaux, enfin bon, voilà. Et donc, ils sont arrivés avec tout leur bazar. J'ai fait une photo de l'instrumentarium, c'était assez rigolo. Et puis voilà. Et donc, par exemple, Pascal, il m'a fait enregistrer une partie toute seule, des passages avec Jean-Pierre. Il a proposé il a lancé des mots, et puis les musiciens ont improvisé là-dessus, sans savoir à quoi ça correspondait par rapport à l'histoire. Puis on a joué ensemble. Enfin, donc il y a eu plein d'expérimentations comme ça. Et c'était pour moi une découverte aussi. Et du coup, les entendais musicalement raconter cette histoire. C'était un super moment. En plus, c'était en plein confinement, où on jouait plus, où c'était la galère là. Et du coup, de passer 4 jours en studio à chercher, à essayer, à écouter. Oh, c'était vraiment un bonheur, ça. Et du coup, eh bien, maintenant qu'on a enregistré ce disque, on a envie de jouer ensemble,
Ah, c'est
les
ça.
quatre. Alors ben oui, parce que
Malédiction.
c'est quand même vachement bien quand on est ensemble. Et bon, tous les quatre, on n'a jamais réussi, mais avec Tom, on a eu l'occasion de le faire 2 fois. Il y en a une là qui se pointe. J'espère
À trois déjà, vous l'avez fait en
qu'elle
public,
touche du bois.
ouais.
Mais Tom, c'est un musicien formidable. Il joue merveilleusement du vibraphone et il a un sens, une écoute aussi. Enfin, tous, ils sont comme ça. C'est des gens de la musique improvisée qui ont l'habitude, qui ont une grande capacité d'écoute et une inventivité. Et puis, ils ont l'habitude d'être là au moment présent. Enfin, c'est vraiment génial de jouer avec eux. Et puis, c'est des gens qui sont simples par ailleurs et qui sont pas. Enfin, ils font pas. Ce qu'ils font, c'est pas pour faire remarquer qu'ils sont des super musiciens, ce qu'ils sont. ils sont vraiment au service du récit, quoi. Ça, c'est aussi une
Alors,
chance.
attends, parce que, bon, je disais tout à l'heure, c'est pas la première fois qu'il y aura une émission consacrée à Paul Lator. On en a consacré une au travail que tu as fait autour de Peter Pan, où tu as déjà fait un enregistrement. Mais je me souviens que cette question de graver quelque chose et de faire que un récit qui normalement est partagé au présent avec les gens soit... Oui, enregistré, c'était pas très simple comme idée pour toi, ça.
Ah non, c'était pas évident du tout, même. Non, non, moi, au début, je voulais rien enregistrer. Je trouvais que c'était. Alors, c'est vous, là, la bande, là, de Lune Rousse, qui m'avait poussé à enregistrer Peter Pan. Et voilà, c'était une belle expérience aussi. Et là, du coup, c'est moi qui ai fait la démarche. Je n'aurais pas imaginé ça il y a quelques années, faire la démarche de proposer à Pascal Dubois d'enregistrer. Et puis ça s'est pas fait très
Oui, ça, il a
facilement.
fallu un peu de.
Oui, il me
Il a fallu que tu
répondait
le veuilles
pas,
quand même.
j'avais l'impression que ça l'intéressait pas, enfin tout ça quoi. Et je n'arrivais pas, mais je n'arrivais pas à lâcher ça. C'est bizarre hein, pour quelqu'un qui voulait surtout pas enregistrer. Et là, je sais pas, je voulais l'enregistrer. Je voulais enregistrer là-bas. J'avais vraiment. Et donc du coup, ben, contrairement à ce que je fais d'habitude, j'ai insisté. Et puis, bah, je crois qu'au final, tout le monde est content.
Thank you.
donc coproduit pour un petit peu par la compagnie de la Lune Rousse, mais surtout produit, enregistré par les éditions Oui Dire, a eu le coup de cœur de la fameuse Académie Charles Cros, là, en 2022.
Oui, ça, c'était vraiment une belle surprise. Surtout qu'au départ, quand j'ai proposé à Jean-Pierre de m'accompagner, tu vois, je me suis dit, voilà encore un travail qui restera à l'état de travail. Quoi. Parce que je n'imaginais pas que cette histoire, un conte merveilleux, avec un percussionniste de la scène improvisée, un mec qui fait quand même des choses bizarres, enfin, cette histoire bizarre, enfin, je me disais, mais ça n'intéressera personne. Enfin, voilà le groupe, les quelques fous de conte. Enfin, voilà, mais très peu de gens. Enfin, je n'imaginais pas que ça puisse intéresser d'autres, mais je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Quoi. Mais alors, quand on a eu ce coup de cœur, j'étais très contente, très étonnée aussi.
Si on veut écouter ton récit en entier, et pas seulement les extraits là dans cette émission, comment on fait alors ?
Ah ben, on va sur le site de Oui Dire. et voilà. Et on peut aussi, si on n'a pas d'appareil pour lire, il y a un code. J'espère que ce coup de cœur, en fait, voilà, ça fait plaisir, hein, évidemment. Et j'espère surtout que ça va donner envie à des gens de l'entendre en direct live. Mais tu vois, ce que je voulais dire par rapport à la difficulté de parler d'un récit, c'est que, en tout cas, pour moi, mais je pense que je ne suis pas la seule, loin de là, mais il me semble que dans un récit, dans nos récits, on dit aussi quelque chose qui est secret, auquel on a accès en partie nous-mêmes, et d'ailleurs pas complètement, mais ce sont des secrets. Il y a quelque chose de très intime, je trouve, dans ces grands récits qu'on aime tout particulièrement. Voilà, c'est pas seulement un mystère, c'est aussi un secret. Et du coup, c'est difficile, parce que c'est... À la limite, je dirais, c'est essentiellement ça, pour moi, ce qu'on dit. On partage un secret qu'on ne connaît même pas tout à fait soi-même. Et du coup, ça rentre vraiment dans des choses très intimes auxquelles on n'a qu'en partie accès. Et c'est ça qui rend, la parole sur le récit difficile. Enfin, en tout cas, pour moi... C'est ça. C'est ça qui est difficile à exprimer quand je parle d'eux.
Et tu vois, en t'écoutant, comme évidemment tu as la sagesse de ne pas tenter de les expliquer, de tenter de les cerner, de les comprendre tout à fait. C'est comme si tu nous disais, là, il y a un mystère. Là, il y a un secret. Et il y a quand même un certain nombre de gens dont je fais partie, à qui, si tu dis « là, il y a un secret », ça donne envie de chercher. C'est une invitation.
Oui. Oui, c'est ça. Bon. Pour moi, c'est ça, les histoires.
Paul, merci.
Oui, ben merci à toi.
On est dans un dispositif spécial où, pour une fois, on n'est pas côte à côte ou face à face, mais... de chaque côté d'un téléphone, puisque tu es dans ton sud et moi dans mon ouest, mais via les engins et à distance. Mais quand même, c'était un bon moment. J'ai vraiment pris grand plaisir à parler avec toi de ton travail et de ce récit merveilleux.
Ah oui, ben moi aussi, je te remercie. J'espère qu'on sera autour d'un thé ou d'un rhum. Hein.
Oui, oui.
Bientôt.
Ne dis pas tout, Paul. Ah, j'en profite pour dire aussi aux gens qui nous écoutent que s'ils ont envie de t'écouter, ils peuvent évidemment sur le site l'agenda de la compagnie La Lune Rousse suivre ton activité, mais aussi bientôt prendre rendez-vous avec toi sur la plateforme histoire au bout du fil. Et prendre rendez-vous pour que tu leur racontes des histoires. On peut prendre rendez-vous avec toi au téléphone.
Ouais, je vais raconter des histoires Je vais raconter et lire, en fait. Il y a des histoires que je vais lire. Et j'ai envie de le faire sous forme de jeu. Voilà, je me suis lancée dans le contomancie,
Tiens donc.
il y a quelques temps. Et je trouve ça vraiment génial. Voilà, on fait un petit jeu. Et donc, du coup, le récit que la personne choisit, si elle a bien fait marcher ses petites antennes, c'est le récit dont elle a besoin qui va lui parler tout spécialement. Et je me suis amusée à faire ça cet été au festival Contes éclatés. Je pense que je vais recommencer cette année où je racontais à une seule personne une histoire comme ça qu'elle tirait comme sur un jeu de tarot. Et c'est arrivé plusieurs fois que les gens me disent: Ah, oh, mais c'est incroyable, mais il y a telle chose qui est complètement en relation avec telle histoire qui est personnelle, enfin voilà. Et donc c'était, voilà, ça.
C'est une chose qu'on a remarqué souvent avec les artistes des histoires au bout du fil, c'est que oui, il y a une forte proximité au téléphone et c'est souvent comme si on était réellement reliés.
Oui, non, mais c'est très drôle. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai fait l'expérience avec Odile la dernière fois, et dans les textes qu'elle m'a lus, mais il y avait certains moments où je me suis dit, oh, c'est incroyable qu'elle dise telle chose. C'était, tu vois, très, très fort relié à quelque chose que j'étais en train de vivre, quoi. Ouais.
Bon, et ben en tout cas, à bientôt, soit sur scène, soit au bout du fil, et puis voilà.
Oui,
Merci.
merci beaucoup, merci.
Eh bien, sur ces mots, il est temps de se séparer. Merci à Paul Latorre, merci Anne-Gaëlle Goduchaud, merci la compagnie La Lune Rousse, ainsi que Pascal Dubois et aux éditions Ouidire, qui nous permettent d'entendre cette histoire en disque, hein, et c'est une belle chose. Voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt. Vous pouvez consulter toutes les émissions qui ont été enregistrées par la compagnie La Lune Rousse depuis le début en faisant le site c'est pas pour dire hein, d'un seul coup d'un seul .fr. Très bonne journée.
C'est pas pour dire était comme chaque mois produit et réalisé par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchaud et présenté par Charles Cécile.
A dream.